Quand vous étiez un enfant chanteur, vous avez goûté aux joies du théâtre. Vous avez continué à aimer le théâtre.
Je continue à l'aimer. D'ailleurs, vous savez, j'essaye dans mon activité de marier le théâtre, la musique, un peu le cinéma aussi. Mais c'est vrai que pour moi, le théâtre, c'est une expérience essentielle parce que c'est l'expérience de la troupe. Pour moi, la troupe, c'est une valeur extraordinaire. On oublie que la troupe, c'est Molière, bien sûr, mais c'est aussi toute l'histoire de l'art, en somme. Les écoles des grands peintres de la Renaissance, c'était aussi des troupes, au sens théâtral du terme. On se déplaçait, on transportait son atelier avec soi. Donc pour moi, le théâtre, c'est un peu ça. Ça reste toujours une expérience merveilleuse.
Est-ce qu'il existe encore des troupes à l'heure actuelle de théâtre avec lesquelles on peut travailler ?
Vous savez comme moi qu'en ce moment, c'est difficile, parce que faire vivre une troupe, c'est presque impossible. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de rencontrer une période où cette troupe existait encore, à Paris, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, qui sont, à mon sens, les deux figures du théâtre vivant du XXe siècle. Bon, vous avez d'autres grands metteurs en scène, n'oublions pas Jouvet, n'oublions pas Vitez, etc. Villard, naturellement, Villard essentiel. Mais Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, c'est la vie même. Et à travers cette troupe, j'ai fait la connaissance, dans un projet précis, de Jean de Sailly et de Simone Valère, qui sont un autre couple merveilleux du théâtre. Et grâce à cette collaboration, nous avons pu monter le Roi David de Néguer, où Jean de Sailly et Simone Valère faisaient les parties respectives de récitants. Et pour moi, c'était une expérience extraordinaire, parce que qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai vu des artistes consacrés, comme on dit, qui étaient habillés d'humilité, habillés de remise en question. Qui imaginaient, par exemple, que Jean de Sailly a accepté de travailler avec moi alors qu'il ne savait strictement rien de moi. La seule chose que nous avions en commun à ce moment-là, c'est un téléphone dans lequel j'ai travaillé comme un fou pour essayer de le convaincre que mon roi David serait le plus beau du monde. Et je n'avais que cette arme-là. C'était vraiment une affaire passionnelle. Eh bien, imaginez que cet homme-là, consacré plus de 120 films, les plus grands du théâtre, derrière lui, eh bien, cet homme-là a accepté. Et il me l'a d'ailleurs dit plusieurs années après. Il m'a dit « Votre dossier n'aurait rien changé. Je ne fonctionne que de cette manière-là. » Eh bien, c'est une leçon merveilleuse. Et j'espère que j'essaie de le faire moi aussi, autant que faire se peut.
Vous avez fait des choses avec De Sailly et Simone Valère depuis le roi David.
Eh bien, on a fait un spectacle justement en hommage à Jean-Louis Barrault, et qui s'appelle Le Funambule écarlate, qui est une chose que nous avons écrite en commun, qui est une improvisation qui mélange plusieurs styles autour de l'œuvre de Jean-Louis Barrault. J'ai fait des tournées avec eux dans le théâtre poétique. Par exemple, un spectacle Sandrard. Et puis, je les ai secondés pour un ou deux spectacles pour la musique de scène.
Vous faites de la musique pour le cinéma et la télévision ?
Pour la télévision, j'ai fait de la musique pour des séries. Deux séries en Italie et une série en France. C'était très agréable parce que, vous savez, c'est la musique de film. Ça ajoute une dimension qu'on oublie beaucoup, nous, les musiciens de formation classique. C'est la contrainte. C'est-à-dire que dans une musique de film, vous êtes obligé de suivre un timing, un plan très précis. On vous demande 20 secondes de musique douce, on vous demande 2 secondes de cri, on vous demande quelque chose de nocturne. Bon, il faut vous adapter. Alors que dans l'inspiration sur laquelle on construit habituellement nos concerts, le temps, en fait, est une notion beaucoup plus arbitraire, enfin beaucoup plus personnelle, subjective. Là, elle n'est pas subjective. Il faut faire 20 secondes, pas une seconde de plus. Donc c'est très intéressant comme métier, on apprend énormément. Et je ne dirais pas, comme certains musiciens, que c'est seulement de la musique alimentaire. Ce n'est pas vrai. On gagne de l'argent avec ça, c'est vrai, mais on apprend beaucoup. On apprend peut-être à se restreindre, à se limiter, à faire sobre.
Est-ce qu'il y a une liberté dans cette contrainte, la contrainte du temps ? Est-ce qu'il n'y a pas précisément, avec une contrainte, une liberté plus grande qui se retrouve ?
Sans doute. À condition d'avoir un partenaire au niveau du metteur en scène qui aime suffisamment la musique pour le sentir. Parce que vous pouvez imaginer que certains metteurs en scène considèrent la musique comme une, une chose complètement subsidiaire. Alors on découpe allègrement n'importe où pour qu'on ait un petit bout de son, ça convient. Donc dans un cas comme ça, c'est évident qu'on n'a aucun plaisir et qu'il n'y a aucune dimension. Mais quand on a un metteur en scène comme quelqu'un comme Bertrand Tavernier, par exemple, qui adore la musique, qui a fait des films presque qui sont des poèmes musicaux, alors là on travaille en intelligence absolue. Et là il se passe quelque chose.
Il ne faut donc pas que le metteur en scène soit comme Victor Hugo qui disait « Interdiction de déposer de la musique le long de mes vers ».
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Hitchcock, sans Bernard Herrmann, ça reste un très grand réalisateur. Mais je vous promets que si vous écoutez la musique de Psycho, par exemple, on perd énormément. La musique de Bernard Herrmann a ajouté une dimension métaphysique au film extraordinaire. Donc je pense qu'on doit vraiment respecter la musique de film. Et dans le cadre de mon activité de chef d'orchestre, j'essaye de lui laisser sa place.
Est-ce qu'on peut écouter de la musique de film sans le film ?
Ah, moi je pense que oui. Je pense que oui. Je pense même, je vais vous dire, mais ça c'est une réflexion de musicien évidemment, c'est que si on le fait, on risque très souvent d'être déçu ensuite par le film.